Africa Radio avec Robert Brazza.
Ditou, c'est l'heure de la Maramara boutique du dimanche matin. On va la prendre, notre Bastille.
Musicalement et toujours avec des travaux, Doya Manou, parce que comme tu t'en es rendu compte, la rue du Faubourg Saint-Antoine est carrément passée à un sens unique.
Ben si, ça peut te rassurer. Moi, je viens de la porte de Vincennes, il y a des travaux à partir de Vincennes, Saint-Mandé, tout ça. Enfin, au moins, on voit des travaux.
Oui, et qui finissent.
Et ceux-là, ils finissent avec les budgets qui sont... Voilà, les budgets sont pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a des vrais travaux, il y a des vraies transformations. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup au même moment, quoi.
Et oui, au même moment, et tout ça n'est pas facile, parce qu'en vue de Paris 2024, eh bien, il faut peaufiner, il faut arranger cette citadelle qui sera, allez, à 90%, je dis pas ça pour nos amis qui conduisent ou les taximens, elle sera piétonne, c'est l'ambition en tout cas de la municipalité.
Comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Et Paris sera très très beau au moment où ces jeux-là arriveront sûrement. En attendant, on souffre.
Eh oui, on souffre, mais surtout on a en tout cas une belle perspective de Amanou, puisque dans quelques jours, nous serons à Abidjan pour célébrer l'avènement officiel de notre chère radio.
Open the door, Richard, on va ouvrir officiellement et puis on sera bien du côté de Cocody, du côté d'Ajamé, du côté de la Zonka, du côté de... Ben on sera content de revenir, mais de revenir avec des ondes en plus.
Des ondes positives, et puis on est quand même drôlement content ce dimanche, parce qu'on retrouve nos ondes, mais on retrouve aussi nos lumières, nos éclairages, et tout ce qui fait qu'on se cultive, car à côté de moi, il y a l'inspecta Makossa.
Ah ouais. Que la lumière soit.
Elle est, à travers ce que tu dis, à travers ce que Djelou va nous dire, ce sont des lumières, ce sont nos lumières à nous. Hein.
Et comment
220 volts, ça marche.
Et même plus, Djelou qui est avec nous déjà en première partie d'émission, on a évoqué le Doin Bix Bikuta, mais il a sa propre actualité quand même, et on avait fait bref la dernière fois, mais on ne peut pas faire bref quand même sur un tel talent. Et puis ce qu'on ne veut pas faire bref non plus, c'est une actualité d'ailleurs avec l'inspecta, parce qu'il s'en passe des choses sur cette belle place qui est la place de Paris, et notamment dans les musées.
Oui, effectivement, depuis un mois ou deux, au musée, ça s'appelle maintenant le musée de l'émigration. Autrefois, c'était rien d'autre que le musée, comment on appelait ?
Colonisation ?
Non, le musée des arts africains et océaniens. C'est dans ce musée-là, à la Porte Dorée, on a exposé la dernière fois en 1931 les derniers os humains. Hein, ça vous dit quelque chose, les os humains?
C'est
ça, c'est montrer les Africains,
c'est
les
pas les os profonds.
Et les... Je vais vous arrêter avec les jeux de mots. C'est le temps où la France, c'est la dernière fois que la France a montré les gens qui l'étaient civilisés outre-mer.
Et c'est lumière,
voilà,
les lumières.
On a repris l'essentiel du matos qu'il y avait là-bas. On l'a installé au Quai Branly. Aujourd'hui, on a transformé ce lieu-là en musée de l'émigration. Et c'est à cet endroit que l'on a fait une exposition qui concerne la musique d'émigration ici depuis à peu près les années 40-50 jusqu'aux années 80.
À côté des musiques anglaises, anglophones d'ailleurs.
Non, les musiques anglophones, comme les musiques francophones, font partie de l'immigration. Il fait,
il fait
référence, lui, au ska, au reggae qui rencontre le rock anglais. C'est une des parties. Le musée s'ouvre avec l'histoire des musiques jamaïcaines et du rock anglais à Londres. C'est pour ça que Dibango fait allusion à ça. Mais après, ça descend vers chez nous. Le shaabi et le raï avec les maghrébins. Et les musiques du Sénégal avec Africa Fête. Et donc votre serviteur avait été...
C'est quand même un endroit qui est chargé d'histoire, parce que pour la progéniture, c'est en face de la foire du trône. Alors ça n'a rien à voir. Pour l'autre progéniture qui a vu les grévistes et puis les sans-papiers qui avaient habité ce musée, c'est une chose. Mais alors pour les papiers et les mamies, c'est quand même un fief historique, parce que Doin Manou, tu le dis, Porte Dorée, c'est boulevard Poniatowski.
Voilà.
Et des étudiants s'en souviennent.
Les étudiants s'en souviennent parce qu'il y a eu la maison de l'Afrique.
De l'Ouest.
De l'Ouest, là où tout le monde se retrouvait. Certains présidents d'ailleurs étaient étudiants là-dedans. Et ma foi, c'est un quartier, disons, qui a toujours eu à dealer avec ce qui est noir sans savoir. Enfin, c'est une addition finalement. Là. Mais au départ, à chaque fois, il y avait un truc qui concernait l'Afrique, le musée, cette maison, l'atmosphère, même beaucoup de gens habitaient boulevard Poniatowski qui venaient d'Afrique. Hein.
Et en partant un petit peu plus dans le fond des choses, l'inspecteur, c'est que aujourd'hui dans le musée, on n'essaie pas juste d'avoir quelque chose de figé. Il n'est pas juste question d'une expo d'art plastique qui ne bouge pas. On essaie vraiment d'aller vers quelque chose de plus vivant.
Ah non non, mais il faut qu'on se comprenne très bien. Le reste du temps, c'est un laboratoire du CNRS, hein. Comme tu en as en géographie ou en histoire,
recherche.
C'est un lieu de recherche. Mm-hmm. Donc, sauf que ça s'est installé au lieu qu'on les met dans l'endroit où on exposait. Le noir ou le polynésien qu'on va civiliser, maintenant on installe les gens qui sont là pour nous expliquer pourquoi on est là en France et qu'est-ce qu'on fait là. Donc ce n'est pas seulement, tu as raison, un lieu où on montre le passé africain. Par exemple, dans l'expo que Manu racontait, il y a une phase là-dedans où tout le monde, tous les instruments de musique traditionnelle.
Donc, il faut savoir... Même les accordéons, en fait, parce que ça va même jusqu'en Italie. On a vu un rayon, il y avait des accordéons. Parce que l'accordéon, ce n'est pas un instrument français.
Non.
C'est un instrument venant d'Italie.
Ah ben, il y a des choses comme ça. Et puis, même tout le monde pensait que c'était d'ici.
Non, 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 non. Mais donc, c'est un lieu qui est toujours un lieu de savants, un lieu de recherche. Mais c'est aussi, surtout, le lieu, c'est la question en ce moment, on peut fabriquer la nouvelle citoyenneté. Depuis qu'on met en question ici la présence des migrants ou des gens sans papier. Donc c'est un peu le lieu qu'on a... On a donné le leadership à l'historien Benjamin Stora. Stora, c'est un Français né en Algérie, qui a connu la guerre d'Algérie et qui aujourd'hui est universitaire à qui on a confié tout ce travail-là. Donc le reste du temps, effectivement, c'est le projet, c'est de plus en plus faire que cet endroit devienne le lieu où on apprend comment et pourquoi la France a été dans les colonies.
Il est vraiment temps, Manu, d'emmener Miliane et ses amis. Les profs doivent emmener les élèves pour visiter ce genre d'endroit, parce que ça pourrait faire le lien.
C'est le cas, c'est ce qui se fait
nous-mêmes, en tant que radio, on va essayer de convaincre le boss, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de musique, du coup. Hein.
Oui.
Voilà, mais c'est l'autre aspect historique de la musique, et que ce serait bien qu'on fasse une émission là, parce qu'il y a d'autres émissions, il y a d'autres radios qui font des émissions là, en fait. Moi, j'ai été là-bas comme artiste, pris par une radio, je dirais pas concurrente, mais frère.
En tout cas, il y a un bel état d'esprit lorsqu'on parle des instruments et de leur pérennité. Djelou, tant qu'à t'avoir sous la main, je t'ai déjà vu sur une vidéo aux côtés de quelqu'un qu'on aime beaucoup à la radio. Il était venu bavarder avec nous. Il s'appelle Don Emilio Bisaya.
Oui, tout à fait.
Et il était venu avec son ganzavre. Je ne sais pas si je le prononce bien.
Ganzavre.
Il me dit, Robert, c'est une harpe thérapeutique. Alors, il la tenait très soigneusement.
Hein, elle soignait quoi, alors?
Ben, apparemment, ça soignait les maux que les personnes pouvaient avoir dans les villages, qui avaient des crises ou des choses. Mm-hmm. Bon, quand il l'a posé sur la table, ni François ou ni les techniciens du
monde. Tu t'es senti guéri?
Non, mais disons, on voulait pas être touché. Parce que lui-même la tenait et puis il parlait d'un objet, d'un être.
Sacré, quoi.
Cela veut dire que ce n'est pas l'instrument qui est attaché. Cela veut dire que cet instrument sert dans des rituels thérapeutiques. Il a été un peu imprécis. Il n'y a pas d'instrument en soi qui soit thérapeutique. Il y a la vieille idée qu'on peut soigner quelqu'un de maladie par la musique.
Alors je suis sûr qu'il me corrigerait. Je pense
Est-ce que c'est juste une idée?
Ah non, 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 ça c'est une pratique africaine qui s'est exportée, mais avec l'esclavage, que vous pouvez trouver de l'autre côté de l'océan Atlantique. C'est une des choses essentielles qu'on peut garder, non seulement des musiques africaines traditionnelles, mais même celles des Indiens Caraïbes, ou même des anciennes civilisations comme celle de l'Inde.
Mais on approche le son toujours de différentes façons, en fait. Hein. Le son en tant que tel, il peut être maléfique, mais c'est souvent, il est plutôt bénéfique, les trois quarts du temps.
Mais il peut être maléfique. C'est un instrument traditionnel, hein. Il n'y a pas que celui-là avec lequel tu l'as vu.
Ah ben on est resté une heure dessus avec lui, mais est-ce que justement, Djelou, on parle toujours de nos frères d'Amérique, ça pourrait être une nouvelle porte, cette exposition, ou bien alors l'intention du musée être une nouvelle porte par rapport à nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, parce que ils cherchent par différents objets, par différents outils ou alors différentes histoires à se rapprocher du continent par le biais des instruments de musique. Ce serait formidable.
Tout à fait. Il faut qu'ils apprennent même déjà l'histoire, parce que moi j'ai lu dans un article, vous voyez le banjo.
Oui. Mm-hmm.
Le banjo, on explique dans l'article que le banjo vient de la lyre congolaise. C'est-à-dire que c'est les esclaves congolais qui ont mené la lyre aux États-Unis et qui est devenu le banjo. Le banjo, qui est parmi les premiers instruments avec lesquels les esclaves jouaient le jazz. C'était d'abord le banjo avant la guitare.
C'est pas parmi, c'est le premier.
C'est le premier, on va dire.
Et le banjo, c'est aussi le titre le premier roman écrit par un noir américain qui raconte la première rencontre entre les Caribéens.
Parle au micro.
Bonjour, c'est le titre du roman de Mackay, publié en 29-31 à Marseille, qui pour la première fois avant présence africaine met ensemble les Antillais, les Américains et les Africains. Le nom qu'il a donné à ça, c'est pour cette raison qui est crypté. Le roman s'appelle Bonjour, et c'est la première fois dans l'histoire de l'esclavage où on met l'Afrique, les Caraïbes et les États-Unis ensemble. C'est Claude Mackay que vous connaissez.
Quand tu parles de recherche, disent que les cousins devraient venir maintenant pour les instruments. La première fois qu'ils sont venus, c'est dans les années 70, à l'époque de Racine, et Black is Beautiful, le cinéma, Shaft et tout ça. Cette fois-là, ils étaient venus chercher la musique, les musiques de l'Afrique, faites par les musiciens, les artistes africains qui ont des catalogues en France. Ça a été la première recherche. Donc ils ont pris tous les disques de Franco, de Cabacele, de tout ce monde-là, Rochereau, Manu, et d'ailleurs le petit 45 tours de la phase B, il faisait partie donc de cette première recherche. Ce sont des Noirs américains qui sont venus ici, et bon, le winner, Aïs, Mamako, Mamasa, ça procède de cette recherche-là. Cette fois-ci, maintenant, elle devient instrumentale.
Ah. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a en tout cas toujours de la curiosité, et puis cette même curiosité qui anime notre ami Djelou, parce qu'on a demandé après lui de Amanou à je ne sais combien de reprises. Alors heureusement il est très actif sur les réseaux sociaux, donc on le pistait un petit peu comme ça avec un GPS, et au moment où il arrive, il met une pochette d'album, et il dit: Robert, je suis là, dis à Papa Manou qu'il est arrivé. On pourra dire ça, c'est pas le Beaujolais nouveau, c'est ton opus. Et qu'est-ce qu'on se régale avec ce disque, Don Amanou?
Afro Latino Club. Ça, c'est le quantième d'album, ça. Parce que j'ai connu celui où il y avait les Douala, les Soirs au Village.
Ah, ça, c'est le septième album.
Ça, c'est le septième. Oui. C'est un chiffre magique, le chiffre 7. Okay. Hein. Et que tu as, je vois qu'il y a la photo de Papno, là.
Oui, alors il n'y a pas que la photo, hein, d'ailleurs, parce que c'est à l'intérieur.
Il y a la dédicace, il y a...
Oui, et il y a aussi, et c'est là où c'est émouvant.
Oui, les dernières basses, on va dire, de Papa Noël, ils sont. Et c'est, en fait, on a commencé l'enregistrement de son vivant, et puis on a terminé après. Ça, c'est la technologie qui nous permet de faire ça aujourd'hui, et c'est une très bonne chose.
Donc, tu as été dire bonjour à nos frères latinos.
J'ai été dire bonjour à nos frères latinos. Alors, la petite histoire avec le monsieur avec qui je joue, en fait, qui est un prof de guitare argentin.
Ah.
C'est la première fois.
Juan Gregorachi.
C'est la première personne qui m'avait parlé de l'existence des Noirs en Argentine. C'est quelque chose qu'on ne savait pas. Il y a eu beaucoup de Noirs en Argentine.
Parce qu'il n'y en a plus.
Oui, il y a eu des villes qui étaient peuplées à 70% de Noirs, d'Africains, qui ont été décimés par les guerres. Et les maladies, en fait, parce que...
Comme les Indiens, un tout petit
tout
peu,
fait.
Quoi.
Le gouvernement de l'époque voulait blanchir la population, donc on a laissé crever les Noirs et tout, donc on a tout blanchi. Et ça, c'est une histoire que les Africains ne connaissent pas. Nous, on savait que les Noirs se trouvaient aux États-Unis, peut-être au Brésil, mais l'Argentine, on ne savait pas du tout. Et il m'explique que le Buffalo Soldier de Bob Marley.
Alors, c'est de ça qu'il parle.
Voilà, le thème, ça vient des Argentins, parce que les combattants noirs, en fait, les Noirs qui prenaient pour aller
en
combattre, voilà, en première ligne, étaient tellement forts qu'on les comparait aux buffes.
Il est resté quand même une trace d'eux, c'est le tango.
Tout à fait.
Il faut savoir, en règle générale, d'après un historien colombien qu'on appelle Sergio Mosquera, il dit que tous les mots qu'on trouve en espagnol avec le morphème ngue sont des mots d'origine bantoue. Donc tango, chinango, etc. C'est la preuve d'ailleurs que s'il n'y a plus de noirs en Argentine, il y a dû en avoir, parce que sans les noirs, il n'y aurait jamais eu de tango en Argentine.
Justement, parce qu'il m'explique, c'est aussi la première personne qui m'a expliqué que le tango venait des Africains. Et il y a un monsieur, je m'excuse, j'oublie son nom.
Le premier à l'avoir magnifié, c'est un Français d'ailleurs.
Oui, oui.
Aussi, c'était pas. En tout cas, c'est tout sauf les Argentins.
Tout à fait, tout à fait.
Il y a un texte de l'écrivain Borges, très, très, très important, sorti dans une mode de Jazz Magazine des années 50 ou 55. Borges, qui explique ouvertement sur 4-6 pages l'origine africaine du tango.
Oui.
C'est fou, parce que quand tu rencontres justement Juan Gregorachi, comment est-ce que les choses se passent? Parce que toi, ton aventure, est la boîte collective dont les enregistrements en studio, quand c'est pas Zénith avec Dwayne Manou, c'est Soir au Village. Mais là, sur le coup, c'est une aventure où vous êtes deux. Où vous avez élaboré ça comment?
Disons qu'on a élaboré ça de telle manière. Disons déjà que le Juan, il avait un studio à l'époque. En fait, parce qu'il est prof de guitare, il avait un studio et j'ai fait pas mal de travaux chez lui. Et finalement, je suis devenu un peu le rat de ce studio. Et pendant qu'on était là, chacun sa guitare et on se faisait des mélodies. Et le truc, en fait, c'est que la musique, comment on peut l'appeler, latino, je l'ai beaucoup écouté dans mon enfance. Hein. Et tout ce qui est salsa.
Parce qu'il paraît qu'à la maison, on aimait bien la musique.
Exactement. Il n'y avait que ça, la musique qui venait de partout dans le monde. Musique du Mexique.
Il y a le jazz aussi, il y a les Duke Ellington, il y a des Charlie Parker.
Ça commence par eux déjà. Voilà.
Parce qu'il faut dire que la famille Ava, il y a énormément de guitaristes, il y a beaucoup de musiciens dans sa famille. Hein. Moi, j'ai connu les autres grands frères. Hein. Il y en a un qui est toujours... quand il joue, tu croirais Wes Montgomery. C'est pas son boulot, hein. Il est architecte ou quelque chose comme ça.
Tout à fait, oui. Mais donc... Ingénieur architecte, oui.
Voilà.
Oh, oui, ça passe son temps, quand même.
Et le grand frère, lui, il jouait des claviers. Il avait fait ses études en Italie. Malheureusement, il a disparu. Ben, disons que c'est une longue tradition musicale chez eux, hein.
De voyageurs aussi, quelque part, parce que on parle de tout ce qui se fait. Toi, on peut parler quand même d'un sacré voyage, parce que en remontant way back, même si tu dis oui, mais c'est ce qui est là, j'ai été fouillé un tout petit peu. Premier concert à 14 ans devant quelques mille personnes.
Oui, j'étais l'organiste du collège. À l'époque, le collège, c'est pas comme en France, hein, le collège, comme Rome, ça va jusqu'à un terminal.
C'est à Vought ou quoi Vought.
Libamba.
Ah, c'est toi,
quand c'est pas l'un, c'est l'autre.
Oui. Donc j'étais en quatrième, je me suis retrouvé comme l'organiste du collège, c'était fou.
Pour c'est les curés qui faisaient ça, non? C'est pas les curés?
Nous, les protestants. Les...
Ah ouais, ouais.
Ben nous, on était au lycée Notre-Dame, il n'y avait pas un instrument, hein, donc finalement, fallait que j'aille voir plutôt de
à Libamba, il y avait un piano à queue, il y avait des balles à fond, il y avait tout.
Ah ouais, mais à mon époque, il y avait des quatuors à
Libamba. Libamba est un collège confessionnel protestant.
Avait laissé, là, il y avait des
collèges confessionnels catholiques.
C'est que les collèges confessionnels de chez nous, là.
C'est que les collèges confessionnels au Cameroun qui ont produit toutes ces familles de musiciens que tu connais.
Parce que nous.
Lui, c'est Libamba, du Bango, lui, c'est l'église, mais les autres, c'est le collège Vought. C'est tous les musiciens camerounais que tu vois ont été formés dans les collèges confessionnels. C'est les seuls qui ont des orchestres et qui apprennent à écrire sur partition.
Ça veut dire qu'une large place est faite à la musique.
Ils le faisaient. Je suis même plus sûr que ça se fait encore de nous.
Une très large place, parce qu'à notre époque, la musique, c'était un cours régulier c'était avec officier en deux ou quelque chose comme ça.
Oh bah dis donc, oui. On a envie d'y retourner.
Écrit sur une portée, hein. Tous.
Alors ensuite, il y a les cabarets, Yaoundé, Paris, Dakar, Oyenga, pour ceux qui se souviennent de l'aventure au Sénégal. Et puis, un diplôme d'ingénieur informaticien. Et c'est là où on se dit, bon, pourtant, toi, tu es pas adepte de tout ce qui est de la clé USB. Comme dit le doigt Malo, ça aurait été tellement simple, non, c'est d'ingénieur informatique, bon, allez hop, c'est vite fait. Et toi, tu as un rapport qui est quand même très particulier avec les machines.
C'est en fait ingénieur informaticien, c'est un peu la faute aux parents, parce que
pour eux,
voilà. C'est une bonne faute, non?
C'est une très bonne faute.
C'est la faute aux parents.
Dans notre génération, comme celle d'aujourd'hui, je pense, hein. Les parents, père m'a dit...
Fais ton bac d'abord.
Voilà, fais d'abord l'école. Si tu veux être chauffeur ou cuisinier plus tard, tu me présentes d'abord les diplômes, parce que je suis le dernier garçon de ma famille et tous mes frères avaient fait de brillantes études. Donc je pouvais pas, je devais pas être la brebis galeuse quand même. Donc après les études, je me suis mis, j'ai continué la musique parce que je l'ai toujours faite.
Ben il a fait plutôt bien, Dwayne Manou, d'autant plus que dans ce disque et heureux
c'est
nous,
purement instrumental. Hein.
Ça joue et ça transporte déjà la porte d'entrée face à la mer. Frente al mar, parce que vraiment tu es très hispanophone dans le disque.
En fait, on s'est dit, Juan Gregoracci et moi, on s'est dit, c'est la rencontre de deux cultures. Mm-hmm. Alors, où est-ce que les cultures, où est-ce que les gens, comment les gens se rencontraient à l'époque?
L'eau.
Voilà, c'était pas la mer, un bateau qui arrive, donc c'est pour ça qu'on a écrit Frente al mar, ça veut dire face à la mer.
Et puis, il y a le son surtout de Amanou, c'est pour ça que Djelou, il est quand même toujours en mode univers ou peinture. Et dans ce disque, il déroge pas à la règle parce que il n'hésite pas à mettre le bruit des vagues. Beaucoup ne le font plus aujourd'hui dans Manos.
C'est de la peinture en musical, hein. C'est de la peinture.
Beaucoup trouvent que c'est un petit peu trop, too much ou quoi, alors que là, on voyage.
Ça fait partie. Le son de la mer, c'est agréable. Ça peut aller avec, je l'ai fait à un moment donné sur Douala Sérénade d'ailleurs.
Tout à fait.
Tu vois la mer, tu entends. Donc non, ça dépend comment c'est fait. Tant que c'est pas du collage. C'est une couleur sonore qui envoie une autre. Et moi, j'aime bien ce disque parce que, c'est dédié à l'afro-latino, mais c'est surtout, comme on a toujours l'habitude d'écouter des chanteurs, là, on écoute les doigts qui chantent. Voilà.
Et puis les doigts qui chantent avec une approche qui nous fait aller de temps en temps, ben là on atteint les rives aussi, on va vers le Brésil, il y a des titres comme Heading où on a un son où on se dit tiens, ben sur le solo Santana cracherait pas dessus, mais on peut remonter un peu plus haut avec Vinicius, De Moraes et autres. C'est-à-dire que vous, il y a toutes les influences qui ressortent dans ce disque, un peu comme si aussi bien toi que Juan avait été cherché dans vos classiques de ce côté-là.
C'est en effet ça. C'est la culture, c'est la rencontre de deux cultures, mais de deux expériences, on va dire, de deux vies. Chacun raconte sa vie, son expérience à travers cet album. Et puis on fait donc la fusion. Et chacun déploie ses mélodies, les plus belles mélodies de sa culture et tout ce qu'il a appris. Quoi.
Ce qui est intéressant, c'est qui s'écoute jouer. Ça, c'est intéressant parce que chacun amène quelque chose, mais c'est complémentaire à chaque fois. Moi, j'ai écouté ça agréablement dans la voiture. Je vous le recommande d'ailleurs. Donc, on peut le trouver en commerce maintenant.
On peut le trouver en ligne et online. Mm-hmm. Et puis, il y a le CD physique aussi qui est disponible sur le site. afrolatinoclub.com.
Et puis ils auront droit d'ailleurs d'écouter des séquences juste sur la radio africaine, Africa Radio, juste après une petite page de réclame.
Eh oui, parce qu'il faut qu'on mange. Hein.
Le jukebox de Manu Dibango
avec Robert Tito sur Africa Radio.
Radio.
Écoute, et je complète, Afro Latino Club, il pourrait bien faire le bonheur de tous ceux qui aiment justement les saveurs latines du côté d'Abidjan, parce que tu sais que BBC et ses amis ont repris leur dimanche où ils écoutent de la bonne musique.
Ah ben, ils se mettent ensemble,
ils se mettent ensemble. Alors maintenant, le cigario s'est éloigné sous la consigne de Tantine Luciane, qui lui a dit, tu arrêtes. Bon, mais il lui reste la musique, alors on le salue.
BBC, on t'arrive.
Et alors, dans cet opus, il y a vraiment des merveilles. Bon, évidemment, la partie et l'hommage à Papa Noël qu'on écoutera tout à l'heure, ça, c'est une émotion particulière, parce que je crois que je t'ai envoyé un message à 2h du
tout
matin.
À fait, oui.
Où, là, sur le coup, alors, quelle présence.
Ah oui.
Et
ouais.
Comment ça se passe en studio? Parce que le Don Manu, il dit enregistrer des fois des centaines, des milliers de kilomètres, ou alors avec des personnes qui ne sont pas là physiquement, il faut être vraiment body and soul.
Par contre, celui-là, on l'a fait vraiment tout le monde ensemble, en live.
Oui,
il était encore là.
Oui, il était encore là.
Ce qui le rend plus précieux encore.
Oui, il était encore là. Donc, c'était. La petite note, c'est qu'il a mené des musiciens que je n'ai pas revus depuis. Alors, si jamais il m'écoute, j'aimerais leur dire que l'album est sorti. Par exemple, le batteur et le clavier, je ne les ai pas retrouvés depuis.
Ça, c'est la vie des musiciens. Mais ce qui est bien, là, c'est qu'en fait, il aurait pu faire comme Nathalie Cole a fait avec son père. Déterrer un peu les bandes,
oui.
Effacer la voix. Enfin, moi, je trouve ça le procédé techniquement bien, mais un peu morbide, quoi. C'est ici, vrai. C'est pas morbide, parce qu'ils ont joué, effectivement, ensemble.
On a joué ensemble, oui. On n'a pas repris des basses qu'il avait faites avec d'autres, non, on a joué ensemble.
Alors avant d'écouter ce titre, on va faire un petit détour, parce que Djelou, il y a évidemment ce nouvel opus Afro Latino Club avec Juan Gregorati, mais on a surpris de Amanou sur la toile, parce que Djelou communique un morceau où il est très bien entouré. C'est un titre qui s'appelle « Attends-moi ». C'est une reprise d'Echo Roosevelt.
Ah, Echo.
Oui.
Sur la scène, tu étais beaucoup.
Oui, tout à fait.
tu veux nous rappeler d'ailleurs où c'était, parce que dis donc.
On était nombreux. C'était à Sainte-Valonie-Bruxelles. Alors j'ai.
Oui, Quincampoix.
Oui, voilà, tout à fait. J'ai repris ce titre avec des musiciens indiens. Parce que moi, je pense que la musique doit s'ouvrir. C'est pour ça que j'adore le jazz. Le jazz n'est jamais statique. Il s'ouvre à d'autres musiques. Donc moi, j'aime faire des musiques qui s'ouvrent aux autres. J'ai fait cette reprise avec...
Ils ont fait du raga là-dedans ou quoi?
Non, pas du tout.
Où est-ce que tu as été chercher Echo Roosevelt? Il n'était pas à Cribou, il était avec un Quincampoix.
Alors lui...
Non, en fait...
C'est le chef traditionnel de Cribou.
Oui, de Cribou, absolument.
Nous, tu l'as trouvé.
Il fait bien...
Si tu veux un terrain à Cribou...
Il fait bien de noter, de mentionner ça, parce qu'en fait, cet extrait... C'est un extrait d'un double album que je vais sortir bientôt, qui s'appelle Cameroun Everlasting. C'est une reprise de tous les anciens. C'est une reprise de, en fait, ce que j'appelle les classiques de la musique camerounaise. Bien évidemment, en face de moi,
oui.
Il sera là.
En fait, je voulais
venir. Je lui ai pas dit le titre que je vais reprendre.
Je voulais venir, en fait, parce que Dwayne Djelou sort ce disque. Alors qu'il avait annoncé celui dont on réécoutait un extrait.
Tout à fait.
C'est fait comme au football, la contre-pied, quoi.
Ouais, c'est Maradona, un peu je dribble, donc je reviens après.
À propos de ça, il y en a un qui dribble mal en ce moment. Enfin, ça, c'est...
Oui.
C'est un album qui sortira bientôt en été, après celui-ci, après Afro Latino Club. Donc c'est Cameroun Everlasting.
Mais procurez-vous déjà cet Afro Latino.
Oui, parce que lui, au moins,
parce que si vous aimez la musique, c'est pas obligé que ce soit toujours du chant. Vous pouvez écouter ça dans la voiture, dans la circulation. Vous pouvez écouter ça si vous faites la sieste. Est-ce qu'il y a encore des gens qui font la sieste?
Bien sûr.
Oh, les temps qui courent.
Bien sûr. Le temps
est tellement cher que on peut plus faire la sieste. Enfin, disons que si vous avez un moment d'écoute à la maison, ce sont des musiques à écouter, quoi.
À écouter. Et donc, comme promis, on va respecter le plan de jeu de Djelou. Écoutez d'abord ce Attends-moi, qui est la reprise d'Echo Roosevelt en live. Il y avait des Indiens, mais il y avait un monsieur qui était tout au fond et qui avait un chapeau sur la tête.
Emilio Bisaya.
Eh oui, que j'évoquais tout à l'heure.
Tout à fait, qui est aux percussions. Il a
et qui est vraiment au fond de la scène, Doamanou, parce que aujourd'hui, tout le monde préfère être devant. Mais lui, il est carrément au fond. Il faut vraiment le chercher. J'ai l'impression presque qu'il veut pas qu'on le voit.
Non, en fait, on nous a placés. Donc, les réalisateurs nous ont placés. Ils ont mis des petits scotch là, les vous bougez pas. C'est eux qui nous ont placés sur la scène.
C'était une DVD ou quoi? C'était une vidéo.
C'est une vidéo.
Oui, ouais, qu'il a juste partagé sur le net.
Mais avec le son, un MP3 qui existe, c'est une chanson qui a été enregistrée et mixée, qui attend les autres pour faire le
nouvel. Enfin, il y avait les deux, quoi.
Oui.
Son et image, en fait.
Tout à fait.
Eh bien, on va d'abord découvrir le son.
Thank you.
Africa Radio.
Africa Radio et la musique est belle. Attends-moi pour saluer le sage du côté de Kribi, Monsieur Eko Roosevelt, qui a fait des morceaux dans tous les styles. Hein. On avait fait une spéciale de Amanou où j'avais écouté des morceaux disco-funk.
À un moment donné, dans les années 70, il a sévi ici, hein, tout ce qui se passait avec les Pamelo et tout ça, la bande à Pamelo, il faisait partie de ça, il était un arrangeur de une certaine génération. Et ma foi, il est rentré au Cameroun comme un jeu, et puis il n'est jamais plus revenu. Et comme il sort d'une famille de chefferie chez nous, ben voilà, il est chef à Kribi.
Un notable.
Un vrai notable. Mais il est très très aimé au Cameroun.
On le salue. Et puis puisqu'on parlait d'expérience et de jeunes qui démarrent, du côté de la Mara, on est tombé sur un jeune, alors qui est vraiment tout à fait étonnant. Il a grandi dans la ville de Boaké en Côte d'Ivoire, son père ivoirien et sa mère antillaise. Alors lui à la maison, c'était les théories musicales avec des amis, des parents qui passaient par là. Son père, amoureux du jazz, lui offre le saxophone.
Il est beau son saxo d'ailleurs.
Voilà, et Manou, ça doit l'interpeller, son papa lui a offert le saxo et il se met à jouer comme ça et à développer une sorte de passion pour la musique. Et dans son petit home studio à la maison, il enregistre et arrange ce disque qui s'appelle L'Enfant Noir. Lui, il s'appelle Asso Oun, Pierre Aimé. Et ben, il faut dire que dans la vague actuelle où tout le monde se dit il faut que je joue des disques, que je fasse des disques à la mode, en mode coupé, décalé, etc., le son est surprenant de Amanou.
Oui, homemade, mais avec une certaine connaissance des appareils. Et puis, ce qu'on peut lui souhaiter d'ailleurs, en fait, pendant qu'on y est, c'est bon vent.
Oui, aussi.
Puisqu'il est ventiste, lui. il a un beau son au saxo, on va voir. La route est longue. En tout cas, bonne route. Et puis, l'initiative est à féliciter parce qu'il n'a eu besoin de personne pour le faire, que son amour pour la musique. Puis aussi les moyens peut-être d'avoir aussi un home studio à la maison, hein, parce qu'il faut avoir des moyens.
Voilà. Alors aujourd'hui, il le faut, et puis ce qu'il y a, c'est qu'il tient, tu le disais, de Amanou, il tient l'instrument, on sent qu'il y est, il est vraiment attaché, parce qu'il y en a deux, parce qu'il a la flûte.
Non, c'est le oui, ça s'appelle le oui, c'est un sax électronique en fait.
Électronique, mais qu'il est, et puis c'est pas un album de 3 titres, il y a 12 morceaux dans l'album, c'est un peu comme une histoire, il se balade du côté du Ghana, il parle, d'ailleurs il y a un jeu de mots sur Six Sax and Son, il y a aussi le Poku, sur la reine Poku, qui est à l'origine du peuple baoulé, et puis il y a un Mami Wata qui n'est pas la reprise du titre.
Non, c'est son Mami Wata, à lui probablement.
Donc il fouille, et puis il faudrait qu'il vienne d'ailleurs nous en parler, il se balade un petit peu là, il avait un petit peu le trac, il a remis le disque, donc Asoun, mission accomplie, le disque est entre les mains du Don Amanou. J'espère que tu dormiras bien cette nuit, dit-il, à l'écoute du disque.
Il y a du moté mal dans l'air aussi. Hein.
Aussi. Et le morceau donc, qu'on a extrait s'appelle L'Enfant Noir. Alors c'est peut-être un clin d'œil à Kamaralaï, qui sait. Et on lui cède bon vent, comme tu dis, on en écoute un morceau, du moins un extrait. Bongo
sur Africa Radio.
Eh bien, longue route à Soun, Pierre Aimé avec ce morceau qui est plaisant en tout cas à l'oreille et qui en tout cas nous fait penser que les jeunes aussi aiment les vrais instruments.
Non mais c'est bien parce que il fait son premier disque, il passe à la radio tout de suite, il dit nous, il a...
ouais, voilà.
Nous à l'époque, je veux pas dire avant que ton disque passe à la radio à l'époque. Hein,
ouais, quoi que.
Là maintenant, tu arrives, tu es frais, tu as 18 ans, tu fais un disque, paf.
Ouais, mais quand même, pour rappeler 7e opus, toi, tu continues aussi d'aller voir des plus jeunes quand tu vas au pays, ou du moins, ils viennent te voir. Il y a beaucoup d'images où on te voit dans des masterclass, où tu expliques, tu deviens le prof.
Tout à fait, je rencontre plein de jeunes au Cameroun, et je suis satisfait parce que j'en vois beaucoup qui sortent des sentiers battus, quoi, qui ne font pas la musique, toujours la musique populaire, quoi, ils font autre chose. Il y en a même qui font un peu de jazz, c'est très encourageant, quoi.
Bah, il faut souhaiter quand même que tous les pays ont des festivals. Hein.
Oui.
Nous, on a eu à un moment donné, puis à un long moment non donné, on manque un peu de festivals au pays.
Ah, ça, c'est notre tard.
Il y a un problème de ce côté-là. Il faut d'ailleurs que les musiciens eux-mêmes réfléchissent parce qu'ils vont dans des festivals dans d'autres pays. Ce serait bien qu'ils pensent à organiser chez eux ou en tout cas à faire en sorte que les autorités puissent avoir quand même un vrai festival. Non, pas un festival communautaire, mais un festival où on ferait venir des artistes d'ailleurs. Un vrai festival.
Où on voit des vrais musiciens.
C'est ça.
Qui jouent en vrai.
Qui jouent en vrai. Dire. Tout à fait.
Mais pour ceux qui voudraient d'ailleurs avoir les dates du Doyen Manou, parce que quand il marche rue du Faubourg Saint-Antoine, tu joues quand et où? Allez sur la page Facebook Manou Dibango officiel ou alors sur manoudibango.net et vous allez voir que cet été, il s'en passe quand même des choses. Hein, parce que bon, Doussard dans le 74, Bâle en Suisse, Saint-Riquier pour le Symphonique le 5 juillet, mais je dis en gros parce que c'est plus près de chez nous, le 17 octobre au Grand Rex à Paris, parce que ta bouille apparaît déjà à quelques endroits.
Puisque tu le dis.
Et on a oublié de dire quelque chose tout à l'heure avec un spectacle Makossa, c'est que cette expo quand même, c'est un grand monsieur aussi qu'il faut saluer.
Voilà, ce monsieur. Donc, les instruments traditionnels a aussi mis en scène les tenues de scène de Dibango et de Fela. Dibango avec les cheveux, hein, pas comme aujourd'hui. Donc les boubous, les boubous que vous connaissez.
La gandoura.
Et surtout de rappeler que c'est lui qui amène l'électronique dans la Belle et Danse. Ce monsieur a un nom, on l'appelle Martin Messonnier.
Salut à lui, il revient quand il veut quand même.
Et puis je suis avec un compagnon, hein, Philippe Davel, qui... On travaille depuis 30 ans ensemble. Un jour, on va un peu l'opérer. Hein,
parce oui, il faudrait que, pour la carte.
Il a son,
oui.
Voilà, il a son oui. point de vue, à force de faire de la route avec nous.
Ouais. Il a surtout alors une playlist. Oh non, quand je dis une playlist, on va lui prendre une shortlist. Parce que sinon, on pourrait faire, et on aurait beaucoup de plaisir à faire des semaines, il aura 5 titres à nous choisir, et on va bavarder dessus.
Je vais le convaincre de venir bavarder au micro de ces jours. Parce que c'est intéressant de voir le point de vue d'autres. Sur nous autres, quoi. Oui. Pas toujours nous.
Oui.
Autour de nous, il y a aussi autour de nous.
Oui.
Voilà.
Eh bien, ça passe drôlement vite, Doyen Manou, parce que François nous fait signe que la clepsydre s'est écoulée.
Eh oui, c'est comme ça. Ben, comme toutes les semaines, toujours, on vous quitte avec regret, hein, mais avec plaisir de vous revoir ou bien d'être ensemble la semaine, de vous revoir. Peut-être, oui, dans l'imagination. et puis, quand on vous voit nombreux, hein, donc on espère que vous êtes nombreux et nombreuses, et puis on espère vous voir la semaine prochaine toujours au même endroit, avec le même plaisir de passer 2 heures à travers les musiques de notre continent que nous aimons fort, l'Afrique.
Et oui, 10h sur les 107.5 FM, 8h sur les 91.1 FM à Abidjan, où on arrive.
Et comme d'habitude...